Il est 14h05, voilà, et on retrouve ma présence. C'est au Deux Mon Amour avec Denis Chessou.
Et oui, cher Dominique Delaroy, je vous présente un homme que vous connaissez déjà parce que vous l'avez vu sur scène, Dominique Delaroy.
Et oui, c'est Yannick Jolin.
Voilà, c'est Yannick Jolin, un homme que l'on aime beaucoup sur France Inter, mais pas seulement que sur France Inter, fort heureusement, qui réécrit les mythes et puis qui les inclut dans notre quotidien. Et je l'ai fait venir parce que d'abord, il va être le rédacteur en chef de cette émission, et puis il va nous parler du dodo. Alors le dodo, c'est pas exactement un animal d'avenir parce que
il
y a un petit peu disparu au XVIIe siècle, un peu laminé par les Hollandais, mais ça va être une très belle métaphore de notre société, donc c'est très intéressant. Et on vous retrouve pour les informations de 15h.
Ça se reconnaît un écologiste.
Avec tous ces oiseaux à la con, ils ont 5 ans.
CO2.
Ça a des lunettes, ça a une barre, ça a un caoué.
En amour.
Tu préfères les bagnoles?
Peut-être.
Denis Chessou.
J'ai une recette du pays.
Sans produits chimiques, il n'y a jamais de contre-indication.
Bonjour à tous, bienvenue dans CO2 Mon Amour, l'émission qui évite de réchauffer, de polluer, de penser en rond, en tout cas qui essaie, qui prend le temps de ne pas aller vite. Avec aujourd'hui à la technique Nicolas Lapeyre et Yann Bouillot, et assisté de Marion Lelay, de Jean-Christophe Pinaza, c'est Valérie Ayestaraï qui réalise l'émission. Alors une petite humeur sur le thème décroissance, mon amour, une attitude qui a bien des vertus, mais peut-être pas toujours. Alors prenez l'exemple de la décroissance dans la fonction publique. Vous le savez, la politique du non-remplacement d'un fonctionnaire sur deux, eh bien quand le fonctionnaire en question conduit un chasse-neige, ça peut poser quelques problèmes, surtout avec le genre de bouleversement climatique qu'on nous promet. Vous me direz, la faute aux directions départementales de l'équipement qu'on a supprimées, aux restrictions de budget des conseils généraux, aux préoccupations environnementales de certaines communes, comme Annemasse en Haute-Savoie. On va la saluer parce qu'elle tente à juste titre de réduire les doses de sel déversées dans la nature. Et si le problème, c'était aussi un peu notre urbanisation galopante qui met un maximum de distance entre le boulot et le dodo? On va y revenir au dodo, mais c'est pas le même. Quoique, le prix du mètre carré qui repousse les gens, un maximum de voitures aussi dans les bouchons matin et soir. Et là, que peuvent faire toutes les salières à roulettes du monde au milieu des bouchons? Alors, autre solution, bien sûr, dont on parle peu, le non-remplacement d'une voiture sur deux avec prime à la casse pour ceux qui n'achètent pas de nouvelles voitures. Oui, je sais, j'ai vraiment rien compris au système. Décroissance, oui, quand tu nous tiens, dans certains domaines, on fait déjà très fort, remarquez. Les tigres, les thons rouges, les anguilles européennes. Sans oublier quelques espèces moins médiatiques, le tétralyre de nos montagnes, l'iris à feuilles graminées de Martre-Tolosane en Haute-Garonne, menacée par l'extension d'une carrière des Simon Lafarge, et même les abeilles, puisqu'on apprend que pour fêter la fin de l'année de la biodiversité, le ministère de l'Agriculture délivre une quatrième autorisation de mise sur le marché du pesticide Cruiser, au risque d'en terminer une bonne fois pour toutes avec une butineuse sur deux. Sauf que là non plus, on n'a pas de solution de remplacement pour polliniser nos fleurs. Pendant ce temps, le purin d'ortie de nos grands-mères, vous savez, très 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 nocif, il est méchant le purin d'ortie, il n'a toujours pas obtenu d'autorisation de mise sur le marché. Alors un dernier petit mot, hier à Oslo, il faisait moins 12 degrés. Rien que de tout à fait ordinaire pour la Norvège en cette saison. Les routes, les aéroports étaient parfaitement dégagés, les avions volaient, les bus et les voitures roulaient. Et pourtant, lors de la cérémonie de remise du prix Nobel de la paix, il y avait une chaise vide. Or, la diversité des opinions, voyez-vous, c'est comme la diversité des êtres humains, des animaux, des fleurs, ça fait, comme on dit, le sel de la vie. La semaine dernière, Pierre Radin nous disait qu'on avait besoin d'artistes, de philosophes, de penseurs, de créateurs. On a un artiste qui s'appelle Yannick Jolin. Bonjour, cher Yannick Jolin.
Bonjour.
Alors, Yannick Jolin, vous revenez avec un nouveau spectacle donc, qui s'appelle Le Dodo. Je le disais, cet animal, on le sait, qui a été exterminé en 1681. C'est une métaphore de quoi, ce dodo, pour nous?
Dans son côté un peu négatif, c'est notre difficulté ou notre incapacité à s'adapter au monde. Et dans l'autre, ça pourraient être des valeurs promues par ce dodo, qui serait par exemple l'oisiveté,
oui.
Qui serait une bonne... Dans un monde, avant, les aristocrates avaient droit à l'oisiveté. C'était même leur art de vivre. Et peut-être que nous, dans un temps prochain, il faudrait qu'on y revienne à ces vertus-là. Dans un monde qui ne pense qu'au travail, ça serait quand même formidable. Et puis une autre vertu qui est aussi celle de la gentillesse, oui. Qui est absolument incompatible avec le capitalisme, par exemple, puisque forcément, il ne peut pas y avoir de bataille. Dans la gentillesse, c'est plutôt surtout la coopération qui fonctionne.
Bien, mais ça, c'est un mot qui va beaucoup plaire à Jean-Marie Pelt. Alors, je le rappelle, vous êtes le rédacteur en chef de cette émission. Et puis, il y a quand même on débute régulièrement avec une page d'actualité. Et pour retrouver Nathalie Fontrelle, on va lui offrir ceci.
Oui, on se demandait si Cancun allait faire fléchir la position des Chinois et des Indiens sur les gaz à effet de serre.
C'est possible.
Faux. La Chine et l'Inde vont polluer 20 fois plus qu'aujourd'hui, provoquant une montée des eaux qui va faire disparaître toutes les îles de la planète. Et les habitants des Seychelles, morts noyés, les habitants de l'île Maurice, morts noyés, les habitants de la Nouvelle-Guinée, morts noyés.
Oui, monsieur ma mère, on sait que vous tentez de rendre madame Jolie moins austère, mais...
Pas du tout. On la trouve rigolote, parfaite, nous. C'est la leader écologique la plus marrante qu'on ait eue depuis Voynet.
C'est au de mon amour, Denis Chessou.
Et Nathalie Fontrelle, que l'on retrouve en direct de Cancun. Bon, Cancun, on le sait, c'est un beau symbole, en fait, du désastre écologique en cours. Mais il fallait quand même bien loger toutes ces dizaines de milliers de personnes, de négociateurs, de journalistes. Alors, chère Nathalie, avant de rentrer, un petit bilan quand même de ce Cancun. Est-ce que l'on peut dire que l'on a sauvé les meubles ?
Écoutez, on a en tout cas sauvé le processus de négociation internationale de l'ONU. Vous savez qu'après Copenhague, on s'est dit que tout était fichu, qu'à 190 pays autour d'une table, c'est tout simplement impossible de se mettre d'accord. Parce qu'après tout, c'est bien légitime. Chacun défend ses intérêts. Moi, je veux bien réduire mes gaz à effet de serre, à condition que le voisin le fasse aussi. Et puis finalement... Tout a très mal commencé ici. On se disait, voilà, bon, on va tout doucement, mais lentement, mais sûrement à un échec. Et puis, en un peu plus de 24 heures, la présidente mexicaine de la conférence a réussi à mettre tout le monde d'accord sur un texte qui n'est pas historique, qui est assez peu ambitieux, mais qui, en tout cas, rappelle les fondamentaux. C'est-à-dire que si on veut limiter la hausse de la température à 2 degrés d'ici 2100, comme le disent les scientifiques, pour éviter un chaos climatique, eh bien, il faut réduire les gaz de moins 25 à 40 % d'ici 2020. Alors, ça n'a rien de contraignant, c'est juste un appel aux États à faire des efforts, car aujourd'hui, quand on fait le compte, on en est au mieux à moins 15 %.
Alors, un homme comme Brice Lalonde, que vous connaissez évidemment, ambassadeur du climat en France, disait qu'une négociation sur le climat, c'est pas le grand soir, c'est un peu comme un paquebot à mettre en route avec un moteur des mobilettes. Dites-nous, Nathalie, dans quelques mots quand même sur à la fois ce qu'on appelle le fond vert et puis la déforestation. On va dire que c'est un des sujets évidemment le plus consensuel. On rappelle que la déforestation, c'est à peu près 18% de nos émissions de gaz à effet de serre, à peu près comme les transports aussi dans le monde. Donc, qu'est-ce que l'on peut dire sur ces deux thèmes, Nathalie ?
Alors d'abord sur la déforestation, effectivement, vous savez qu'on en a déjà parlé à Copenhague, mais ça n'était pas acté. Aujourd'hui, c'est effectivement dans l'accord de Cancun, c'est-à-dire que les pays riches s'engagent à aider les pays forestiers, qui sont souvent, vous le savez, des pays en voie de développement, à protéger leurs forêts. Ils ont intérêt aujourd'hui économiquement à la couper. S'ils cessent de l'exploiter, ça signifie qu'ils auront un manque à gagner. Or, on va les payer, les rémunérer à ne pas couper leur forêt. Quant au fond vert, vous savez que c'est 100 milliards de dollars par an d'ici 2020, c'est beaucoup d'argent. Ça représente 100 euros par citoyen de l'OCDE et par an. 100 euros, c'est beaucoup quand même. Et vous savez qu'avec la crise économique, les budgets publics sont exsangues et les États ont très peu envie d'ouvrir la tirelire et de déverser cet argent encore vers les pays du Sud. Donc, on parle de financement innovant, de la fameuse taxe sur les transactions financières, la taxe Tobin, dont on parle depuis des années. Il est fort peu probable qu'elle voie le jour dans les 2, 3, 4, 5 ans qui viennent. Ou alors une taxe sur le transport maritime ou le transport aérien.
Merci à vous, chère Nathalie. Donc, rentrez bien. Simplement, vous le savez, le maillot de bain, ce n'est pas de circonstance ici. Ça vous fait un petit choc climatique. Merci beaucoup. Hein. Et puis, donc, pour vous...
Ça ne l'était pas non plus ici. Hein.
Voilà, non, j'avais bien compris, je vous rassure quand même.
Et en tout Après cas, une nuit blanche, ce n'est pas gentil de me dire ça.
Ben, on vous adore, mais vous le savez très bien. Si je vous taquine pas un peu, c'est, ça ne va pas avec le décalage horaire qu'il y a. Donc là, il y a effectivement, il doit être 7h du matin donc, chez vous. Mais en tout cas, rentrez bien et puis un peu de repos, ce qui sera bien mérité. Nous, on va poursuivre l'émission avec Yannick Jolin. Vous avez écouté Nathalie, petite réaction quand même sur tout ça.
Je pensais justement aux forêts de Tasmanie, par exemple. puisqu'on pense toujours aux forêts des pays soi-disant en voie de développement, mais en Australie, Tasmanie, bel exemple, où là, normalement, en plus, avec un ministre de l'écologie, qui est l'ancien chanteur de Midnight Oil, qui était un fervent défenseur de l'écologie, pourtant qui a laissé faire la déforestation, un accord entre un organisme d'État et une société privée, qui sont en train de miter la forêt primaire sous prétexte pour faire de la pulpe de bois vendue aux Japonais, où on fait en plus, on vend ça de manière absolument ahurissante. Et par exemple, le diable de Tasmanie, fameux animal formidable, puisque vous savez que le nom latin du diable de Tasmanie, c'est Sarcophilus arisi.
Oui, je sens quelque chose. Oui. Sarcophilus arisi.
Le Sarcophilus est donc en voie de disparition. Il va falloir faire quelque chose. C'est un animal qui aime les cadavres, qui nettoie le monde.
Bien sûr. Mais oui, on a besoin entre les insectes coprophages et puis le diable de Tasmanie. Nous en avons absolument besoin. Donc, on va poursuivre ce voyage avec vous. Et puis, on va retrouver Jean-Marie Pelt, qui déjà vous écoute avec beaucoup d'intérêt, mais ce sera juste après Renan Luce. Les voisines, vous connaissez les voisines?
Bon,
bien sûr, mais oui.
J'ai toujours préféré aux voisins les voisines, dont les ombres chinoises ondulent sur les volets. Je me suis inventé un amour pantomime où glissent en or et noir tes bas sur tes mollets. De ma fenêtre en face, je caresse le plexiglas. Je maudis les techniciens dont les stores vénitiens découpent dans tranches la moindre paire venge déjà pillée. J'ai toujours préféré aux voisins les voisines. J'ai toujours préféré aux voisins les voisines.
mais oui, préfère les voisines aux voisins. C'est, et puis c'est Renan Luce et c'est pas mal du tout. C'est même très bien. C'est pas nouveau, mais ça nous fait quand même toujours plaisir. Renan Luce et Yannick Jolin invité, donc en direct, rédacteur en chef de CO2 Mon Amour cet après-midi. On a fait un petit tour à Cancun. On va sûrement faire un petit tour du côté de la Lorraine. Interrogation. Je vais vous mettre en relation avec Jean-Marie Pelt parce que vous aviez envie de lui poser quelques questions. Donc à Jean-Marie.
Yannick. Mais oui, j'avais envie. Bonjour Jean-Marie.
Bonjour.
J'avais envie de vous poser cette question, puisqu'on c'est quand même sur l'idée du dodo, c'est son insularité. C'est le fait que chez les animaux insulaires, il y a des caractéristiques particulières, parce qu'en général, on sait qu'ils grossissent, ils s'empattent, ils sont moins aptes à se défendre contre des prédateurs qui sont moins nombreux sur ces îles-là. Est-ce que la même chose se fait chez les plantes ?
Tout à fait. Tout à fait. Chez les plantes, sur les îles, les plantes souvent sont localisées d'une manière très étroite sur des tout petits milieux. Elles ne sont pas en compétition avec les plantes des continents. Et quand les plantes des continents arrivent, les grandes plantes compétitives, elles sont une peste, comme on dit, pour ces petites fleurs très localisées. D'autant que les plantes compétitives n'ont plus de compétiteurs quand elles arrivent ailleurs. Dans leur continent d'origine, elles ont des compétiteurs et donc elles sont en équilibre avec leur milieu. Quand elles débarquent dans des îles, ces compétiteurs ne sont plus là, donc elles ont une énergie renouvelée et c'est le drame pour les petites plantes sauvages qui disparaissent rapidement. On a une longue liste d'espèces très menacées ou disparues, par exemple à La Réunion, à Maurice, à Rodriguez, dans cet ensemble qu'on appelle les mascareignes, où de temps en temps, on voit une plante quasiment disparue depuis 100 ans, bizarrement réapparaître parce qu'un botaniste l'a trouvée par hasard. Donc c'est assez difficile de dire qu'une plante a disparu à tout jamais. Il peut y avoir de bonnes surprises. Il y en a eu, en particulier avec une plante que nous avions choisie dans notre série « L'aventure des plantes », avec Jean Percuny comme le modèle même d'une plante disparue. Nous l'avions présenté sur son herbier, sur sa planche d'herbier au muséum. Nous l'avions accompagné d'une sonnerie au bord. Eh bien, on l'a retrouvée. On l'a retrouvée il y a quelques années, donc vous voyez. Mais ces plantes, évidemment, sont très menacées.
Mais est-ce qu'on pourrait dire qu'aujourd'hui, les îles sont peut-être des endroits de réserve, de richesse, de petits trésors comme ça, de plantes qui pourraient échapper à justement une compétitivité des grandes plantes massacreuses, quoi.
Oui, mais il ne faut pas que les grandes plantes massacreuses débarquent.
Ah oui.
C'est toute l'histoire. C'est tout à fait la même chose dans les sociétés humaines. Les lois de la vie sont universelles. Quand les colons européens ont débarqué en Amérique du Nord, eh bien, les sociétés endémiques et indigènes, je pense aux Indiens, ont été très rapidement exterminées. C'est la même mécanique. Et c'est tellement vrai que ceux qui sont partis d'Europe en Amérique du Nord ont échappé, disons, aux codes moraux et éthiques de l'Europe de l'époque et se sont comportés, excusez-moi, souvent comme des brutes. Donc leur compétitivité était encore accrue par leur exportation. Ben, c'est tout à fait la même chose pour les plantes compétitives. Il n'y a plus l'équilibre initial dans leur continent d'origine, et là, elles deviennent très dangereuses. Vous avez toutes sortes de plantes, je pense à la vigne baronne, par exemple, à La Réunion, qui est une ronce extraordinairement compétitive, qui, dès qu'on retourne un terrain, elle est là, et je pense à des trochlicias qui sont de très très jolies plantes, très colorées, de la famille du cacao. Bon, ben, elles ont été pratiquement éliminées par ces plantes venues d'ailleurs.
Et est-ce qu'il y a une adaptation de ces plantes insulaires ? Est-ce qu'elles peuvent arriver à développer des défenses et tout d'un coup renforcer leur défense immunitaire face aux envahisseurs ?
On ne le constate guère en tout cas. On les voit au contraire très, très affaiblis et toujours en voie de perdition. Disons qu'elles ne récupèrent pas des forces par leur ardeur compétitive parce qu'elles n'ont pas d'ardeur compétitive. Comme le dodo dont on parlait tout à l'heure, que les naturalistes...
Le hollandais.
Oui,
le fatal hollandais.
Les zoologistes disaient qu'il était idiot, qu'il était stupide. Les descriptions qu'on a faites du dodo étaient tout à fait cruelles à son égard.
Et c'était parfaitement injuste, parce qu'en fait, ce terme de dodo, ça vient du portugais qui signifie à la fois fou et stupide, mais aussi alors, du néerlandais. Alors, j'ai vu que c'était
Dodors,
ouais. Et qui signifie paresseux. Et en fait, l'expression faire dodo, ça vient de là aussi. Mmh. Hein, donc,
Oui, ça vient de là, oui.
Oui, oui.
Tout à fait, absolument, je savais, oui.
Jean-Marie, vous restez avec nous parce qu'il y a un homme que vous connaissez bien qui s'appelle Guy Kessler. Et là, ça va nous amener donc au deuxième sujet. Premier sujet donc, choisi par Jean-Marie Pell, donc l'insularité, l'adaptation des observés dans les espaces qui sont confinés. Et puis un autre sujet sur les semences paysannes. Là aussi, vous abordez ce thème dans votre nouveau spectacle Dodo.
Oui, parce que ce qui m'intéressait beaucoup là-dedans, c'est que la standardisation du monde, c'est-à-dire comment... À partir de multiplicité, par exemple dans les semences agricoles, on en a arrivé à faire juste quelques graines qui ont cette espèce de label stable et homogène. Et je crois que notre humanité, elle est un peu dans ce sens-là. On parle beaucoup de diversité culturelle, mais on n'a pas les moyens de défendre vraiment la diversité culturelle. Et dans les semences paysannes, c'est vraiment une allégorie formidable, puisque les types qui aujourd'hui veulent encore continuer à faire leur blé comme mon copain Chupio en Bretagne, quand il veut continuer à faire son blé de Redon, on dit que c'est un blé qui n'est pas assez panifiable, qui n'a pas assez de gluten pour arriver à faire du vrai pain, alors que son pain est formidable et en plus il n'est pas allergisant pour les gens qui ont des intolérances au gluten.
Alors ça nous fait une belle entrée en matière, Guy Kessler, parce que vous êtes le délégué général du réseau Semences Paysannes, donc c'est un réseau qui est né en 2003. Quel était le but de ce réseau, Guy Kessler ?
Oui, bonjour Denis, bonjour Jean-Marie. Le but du réseau, d'ailleurs, que vous avez accompagné, puisque vous étiez là quand on est né à Auzeville, oui. C'est tout simplement de remettre dans les fermes en France quelque chose qui a disparu, qui est tout simplement la biodiversité cultivée. Depuis une bonne cinquantaine d'années, hein, on a vécu peut-être avant certains pays du Sud ce qu'on a appelé la révolution verte, qui a consisté à remplacer les paysans par du pétrole. Ça paraît choquant quand on dit ça, mais en fait, l'engrais chimique qu'on met maintenant dans les champs pour faire pousser les plantes, pour remplacer la vie microbienne des sols et tout l'humus qui est dans les sols, hein, l'engrais chimique, il vient du pétrole. Hein, il faut beaucoup d'énergie pour le faire. Alors, les plantes poussent plus quand on en met. Elles sont peut-être moins bonnes à manger. C'est peut-être aussi pour ça qu'on a des allergies au gluten aujourd'hui. Et en plus, elles permettent de travailler les champs avec toutes ces grosses machines qu'on voit aujourd'hui. Pourquoi on peut mettre des grosses machines ? Parce que toutes les plantes sont les mêmes. Si vous avez ce qui existe dans la nature, les uns à côté des autres, des êtres vivants très diversifiés, parce que chaque plante et chaque être vivant va donner quelque chose à l'autre. Mais pour qu'on échange entre deux personnes différentes ou entre deux plantes différentes, eh bien, il faut qu'on soit différent.
Alors Guy Kessler, les semences paysannes, on revient dessus, mais c'est important parce que c'est vrai que ce que vous nous dites, ça nous rappelle pourquoi on est arrivé là. Il s'agit en fait, ça consiste à prendre une partie de la récolte pour la réutiliser un ou deux ans après. Et donc c'est de la création de biodiversité. Est-ce qu'on doit l'opposer aux semences commerciales donc, que l'on a vu naître dans les laboratoires? Où en est-on aujourd'hui et en gros aussi, quel est votre combat, parce qu'on vous interdit quand même un certain nombre de choses.
Chaque fois, effectivement, qu'un paysan ressème une partie de sa récolte, la plante qui naît est différente de ses parents. Comme nos enfants sont différents de nous-mêmes, ils nous ressemblent, mais ils sont différents. Donc on crée de la diversité chaque fois qu'on ressème une partie de notre récolte. Et aujourd'hui, avec ces variétés de la révolution verte qui sont homogénéisées et stabilisées pour répondre à l'engrais chimique, alors que chacune de nos plantes, si elles sont différentes les unes des autres, c'est pour répondre à des terroirs très différents les uns des autres et répondre à des climats qui changent tout le temps. On a besoin de ça si on veut arriver à diminuer les pesticides qui nous empoisonnent. Et aujourd'hui, justement, pour nous obliger à acheter ces semences commerciales, il y a deux stratégies qui sont employées. La première, c'est que la plupart... Ben, si on les ressème, il n'y a rien qui pousse ou quelque chose qui ressemble à rien. C'est ce qu'on appelle les hybrides F1. Ce sont des semences non reproductibles. Et la deuxième stratégie, c'est la loi. On va nous demander de payer de l'argent chaque fois qu'on ressème notre récolte, alors qu'on ne doit pas payer si on achète des semences commerciales. C'est quand même quelque chose... La vie se reproduit gratuitement, mais non, c'est pas admissible. Il faut qu'on paye. Ça s'appelle une contribution volontaire obligatoire. Il faut être français pour inventer des choses aussi surréalistes.
Jean-Marie Pelt, vous qui écoutez Guy Kessler, vous connaissez oui. évidemment ce catalogue officiel hein, des espèces et des variétés de commercialisation des semences. Oui. Ça coince quand même beaucoup, beaucoup de personnes aussi. Alors, quel est votre sentiment ?
Ben, mon sentiment, c'est que Guy Kessler a raison de dénoncer cette perte de ce qu'on appelait autrefois le privilège des agriculteurs, qui était celui, évidemment, de pouvoir semer des parts gardées sur leur propre récolte et de pouvoir se les échanger. C'est comme ça que le monde agricole a fonctionné depuis la nuit des temps. Alors, des prédateurs à l'affût se sont démasqués et ont voulu faire sur les semences une espèce de hold-up, comme on fait des hold-up sur la vie, et donc s'approprier les semences, quand ce sont des OGM par-dessus le marché, les breveter, obliger ceux qui les produisent autrement qu'eux-mêmes, et eux-mêmes, s'obligeant eux-mêmes d'ailleurs à les faire inscrire sur un catalogue, ce qui coûte très cher, donc on ne peut pas inscrire toutes les variétés sauvages au dit catalogue, et ceux qui sont présents sur les marchés, disons, parallèles des graines et des variétés non inscrits au catalogue sont repérés et poursuivis.
Alors, ce qui veut dire, Guy Kessler, qu'on est entre l'illégalité et le non-droit, là
oui, c'est tout à fait ça. C'est tout à fait ce qui se passe pour mon pays que j'admire beaucoup et que j'ai toujours soutenu, qui continue à produire et à distribuer des graines de variétés anciennes. Et ils ont d'ailleurs, très étrangement, comme clients, beaucoup d'organismes publics, beaucoup de collectivités territoriales, le château de Versailles, des jardins, un peu partout. Donc nous sommes dans une zone de non-droit, mais peut-être qu'on n'a pas l'audace d'aller encore plus loin dans le fameux hold-up.
Alors, Guy Kessler, qu'est-ce que l'on peut faire ? Donc là, Jean-Marie Pelt a évoqué Cocopelli, qui va encore passer en procès donc, dans quelques temps. Mais parfois, on se dit qu'on ne peut pas échanger des graines. C'est pas possible si elles ne sont pas inscrites au catalogue.
Alors, si vous ne pouvez pas commercialiser des graines si la variété n'est pas inscrite au catalogue. Mais aujourd'hui, les paysans ont des droits et on veut leur faire croire qu'ils ne les ont pas. Tout agriculteur a le droit de sélectionner sa propre variété, de la cultiver et de vendre la récolte sur le marché. Et tout agriculteur a le droit, pour exactement comme les sélectionneurs, pour sélectionner des variétés, d'échanger ce qu'on appelle des ressources génétiques, c'est-à-dire justement toutes ces graines anciennes qui ne sont pas inscrites au catalogue, qui permettent de sélectionner des variétés adaptées à ce qu'on fait aujourd'hui. Mais quand les agriculteurs font ça, on va leur dire qu'ils n'ont pas le droit de le faire. Alors même, c'est extraordinaire. On est en Europe, ça se fait dans les autres pays européens. Et puis le gouvernement français, tout simplement, va faire croire aux agriculteurs français qu'ils n'ont pas le droit de le faire. Au point que beaucoup sont persuadés qu'ils n'ont pas le droit. Alors qu'on a tout à fait le droit d'échanger nos semences quand c'est pour sélectionner nos variétés. Et on est dans une situation où, de manière très claire aujourd'hui, nos droits sont en train de s'user parce qu'on ne s'en sert pas, parce qu'on nous a fait croire qu'ils n'existaient pas. Nous avons le droit, et ça je tiens à le dire, d'échanger nos semences. Alors, on va nous poursuivre si on dit qu'elle porte le nom de la variété qui appartient à l'Imagrin ou à Monsanto, mais nous, on n'a pas besoin de dire que c'est la variété de Monsanto ou l'Imagrin. C'est nos variétés, ce sont nos semences paysannes, et nous avons commencé à les échanger depuis 10 ans. Maintenant, nous sommes plusieurs milliers en France, et quoi que dise le gouvernement, nous continuerons.
Yannick Jolin, le petit-fils de paysan de Vendée-Gouzette, est-ce que vous souhaitiez vraiment avoir entendre des informations sur ce sujet ?
Oui, parce qu'en même temps, je suis forcément partagé entre l'héritage paternel. Mon père était un petit paysan de Vendée, éleveur de charolais, se souvenant d'avoir vu les techniciens de la chambre d'agriculture lui disant « mais en dessous de 3 UGB à l'hectare, il n'est pas possible d'être un... »
UGB, unité de gros bétail.
Gros bétail,
ouais. Sur une vache, un bœuf.
Oui, c'est ça. Donc il fallait absolument être dans ces critères-là, sinon le Crédit Agricole à côté ne donnait pas les prêts. Donc on était dans il y avait une pression sur les agriculteurs qui a été là en permanence. Et s'il y a Moi, j'aime les agriculteurs, j'aime les paysans. J'aime les paysans comme ceux qui défendent les semences anciennes, mais aussi ceux qui sont sur le terrain et qui, depuis des années, ont été obligés de passer par les fourches codines de tous ces techniciens, de tous ces conseillers, de tout le monde qui s'est gavé d'agriculture et en plus maintenant qui lui fait porter le chapeau. Et les agriculteurs, s'il y a un endroit où actuellement les gars sont en train de se remettre en cause, c'est bien là.
Ils vont vite, ils vont vite.
Moi, je vis en Bretagne maintenant. Je n'ai jamais vu dans un pays qui a été sinistré à ce point-là, au niveau de l'agriculture intensive, et qui est en train de se remettre sur des routes, l'agriculture bio n'est vraiment... Là, y a un rail absolument incroyable qui est en train de se faire dans ces pays-là, quoi.
Jean-Marie Pelt, la clé, c'est à la fois le sol, on en a parlé, puis aussi la semence, pour vous.
Oui, bien sûr. J'étais en contact il y a quelque temps avec un institut qui est situé à Saint-Pétersbourg, où on conserve depuis la Deuxième Guerre mondiale et les récoltes d'un fameux agronome russe, Vavilov, qu'il ne faut pas confondre avec Lysenko, des centaines de milliers de graines. Et alors, ces gens me disaient, nous ne servons à rien parce que personne ne s'intéresse à nos graines. Alors, évidemment, on ne s'intéresse pas à leurs graines parce que leurs graines ne sont pas brevetables et par conséquent, les grandes entreprises qui ont leurs graines à elles et qu'elles ont si possible protégées ne vont pas chercher dans les ressources que la nature met à notre disposition, mais qui sont gratuitement mises à notre disposition. Alors il faut savoir que pour une espèce donnée, que ce soit le pommier ou la tomate ou la pomme de terre, il y a des milliers de variétés connues. Et il y a donc une biodiversité très grande en ce qui concerne les variétés et pas seulement en ce qui concerne les espèces. Et dans ce panel extraordinaire de variétés qui s'offre à nous, on peut évidemment trouver les variétés qui correspondent le mieux à des conditions précises de milieu, de terrain, de sol, etc. Encore faut-il aller les chercher. Moi, j'avais été très frappé en Afghanistan quand je travaillais dans les steppes de voir proliférer une herbe qui s'appelait l'herbe à chameaux et qui nourrissait les chameaux. Les chameaux mangeaient cette herbe, qui était une herbe très raide. Et je l'ai trouvée ensuite survivant, si l'on peut dire, sur des espaces salés, où il y avait une énorme croûte de sel sur des hectares et des hectares, et cette herbe traversait la croûte de sel et était devenue une plante grasse, alors qu'ailleurs, elle est une plante sèche. Ça prouve qu'il y a une capacité d'adaptation pour une espèce donnée, en l'occurrence celle-là, extraordinaire par le jeu de toutes les variétés qui sont à notre disposition.
Alors, donc, vous retrouverez le site de Semences Paysannes sur le site de CO2 Mon Amour, aussi le lien avec l'ouvrage qui est sorti au mois de janvier dernier, Cultivons la biodiversité, les semences paysannes en réseau. Et puis, un des points communs aussi avec Yannick Jolin et son spectacle, c'est que vous luttez contre l'uniformisation, cette espèce de rouleau compresseur merveilleux que l'on voit dans tous les sens. Un grand merci à vous deux, puis on va passer au sujet suivant, ce sera s'intéresser, on va aller dans le Pacifique, vous allez voir.
Bye.
Voilà, ça s'appelait.
Parlant pas tout anglais, non ?
Et voilà, deux filles, oui, je connaissais le peintre du film, mais ça, là, c'est deux filles. Well, ça, on avait découvert. Voilà, donc nous sommes avec CO2 France Inter, CO2 Mon Amour, votre magazine de nature et d'environnement, avec Yannick Jolin, que vous allez voir au Théâtre du Rond-Point avec le Dodo du 11 au janvier au 13 février. Mais si vous êtes des heureux habitants de la Roche-sur-Yon, toujours en Vendée.
Ah, ben oui, c'est même une capitale.
C'est même une capitale de Vendée. Eh ben, vous verrez, Yannick, ce soir, et puis est en train de roder son spectacle comme il faut. Cette notion de diversité, vous l'appliquez. C'est, oui, parce que vous êtes aussi un homme de parlure, comme on dit, de parlange. Et donc, vous faites aussi très attention à tous les dialectes qui sont en train de disparaître un peu partout dans le monde.
Et cette année, je ne sais plus à quel moment de l'année, il y a eu une petite brève dans un journal où c'était « Madame Boa fut la dernière à parler la langue Bo ». Elle habitait sur les îles des Grandes Andamans. Et chaque année, il y a des dizaines. J'ai vu l'an passé un film de Depardon où il y avait une femme d'une tribu nomade sur les côtes du Chili qui avait une langue absolument formidable. Une espèce de. Parce que mon parlant jamais au Lelmon. Mais là, au Lavedo, son que moi, il ne connaissait pas. Et à chaque fois qu'on a quelqu'un dans le monde qui parle sa langue à lui, moi, on me fait un bien fou.
Oui, et je sens toutes ces vibrations. Mm-hmm. Je vais vous emmener assez loin parce que vous avez choisi un autre sujet dans le Pacifique. Racontez-nous, présentez-nous cela.
Et j'ai entendu parler, il n'y a pas très longtemps, de cette île de déchets dans le vortex du Pacifique. Et forcément que le mot « île », bon, je me disais, c'est-y une île de plastique où qu'on peut aller mettre d'eau aux chaises longues pour aller se faire graler au soleil.
Oui, et ben on va voir ça avec François Chartier qui est chargé des campagnes océan à Greenpeace. Bonjour François.
Bonjour.
Alors Yannick Jolin avec nous. Racontez-nous cette gigantesque plaque de déchets de plastique. Où est-elle? Qu'est-ce que vous avez observé? Quel est le phénomène? Racontez-nous François.
L'orge d'Hawaï, en fait, entre Hawaï et la Californie, il y a ce qu'on a appelé soit une île de déchets, une plaque, on a même parlé de continent. Je trouve que l'expression soupe de déchets est peut-être plus représentative parce que c'est pas une plaque compacte sur laquelle on peut se promener, faire un pique-nique et
bronzer.
Voilà, exactement. C'est lié à deux phénomènes. D'une part, un vortex, c'est-à-dire un phénomène de courant circulaire qui fait que tout déchet, tout débris plastique se retrouve prisonnier dans cette zone. Et donc, il y a un phénomène d'accumulation de déchets plastiques depuis que le plastique existe.
C'est un genre de périphérique, quoi. C'est un genre de périphérique, voilà. Où tout est bloqué autour, quoi.
C'est fermé, c'est un embouteillage géant. Et au milieu, vous avez une accumulation de déchets. Et pourquoi cette accumulation de déchets? C'est notre utilisation du plastique. C'est depuis que le plastique existe, depuis l'après-guerre, il y a massivement des déchets plastiques qui sont déversés dans nos océans. Finalement, ce qu'on voit avec cette plaque et cette concentration extraordinaire, c'est l'état de santé de nos océans en matière de pollution par les plastiques.
La provenance des déchets, c'est a priori, ça vient de l'activité terrestre, hein?
Oui, en très grande majorité, on estime qu'à l'échelle des océans, 80% des déchets plastiques qu'on trouve dans nos océans viennent de nos activités terrestres. C'est des bouteilles d'eau, des sacs plastiques, des brosses à dents, tous les objets de la vie quotidienne. Après, il y a un peu lié à l'activité, par exemple des filets de pêche abandonnés, des choses comme ça. Mais très massivement, c'est les déchets de la vie quotidienne. Et là, vous avez d'un côté la côte ouest californienne, la côte américaine, donc extrêmement développée et très très portée sur la surconsommation, le suremballage. De l'autre côté, la côte asiatique est. Et donc, on voit bien qu'il y a énormément de plastique qui arrive là. Et puis, ça reste prisonnier, ça s'accumule.
Oui, comment ça se fait, oui, en fait, on n'a pas plus d'informations que ça? Est-ce que c'est parce que ce vortex est situé dans une zone vraiment très isolée?
C'est isolé dans le sens où c'est pas une zone de navigation. Et Moore, ce navigateur canadien qui l'a trouvé au début des années 2000, l'a trouvé complètement par hasard. Nous, on l'a documenté avec notre navire, l'Esperanza, en 2006. On a fait des prélèvements, on a essayé de mesurer la densité en débris. Parce qu'il y a aussi bien des débris visibles, hein, des bouteilles d'eau, des choses comme ça. Mais avec le temps, avec l'usure des marées, avec le mouvement mécanique, tout ça se transforme en micro-déchets. Et c'est peut-être ça qui est le plus dangereux. Et on a effectivement tenté de communiquer là-dessus. Par moment, les médias s'y intéressent, mais c'est vrai que c'est loin. C'est pas visuel. Les télés détestent ça. Vous voyez rien. Vous passez en avion dessus, vous voyez des choses qui flottouillent entre deux eaux. Mais c'est pas cette plaque compacte qu'on imagine. Même s'il y a des zones de forte concentration, vous avez des zones par exemple où viennent nidifier dessous des animaux, donc on imagine les conséquences en termes de contamination.
Oui, parce qu'en fait c'est la faune qui en pâtit. Hein.
Oui, il y a, on va dire, deux, trois principales menaces, et elles sont extrêmement graves localement du fait de la concentration, et malheureusement on les retrouve à l'échelle globale de nos océans. D'une part, tout ce qui est gros déchets, finalement, ça va créer des blessures. Vous allez avoir des tortues avec des sacs plastiques sur la tête. Vous allez avoir des lésions physiques sur des oiseaux, sur des poissons, etc. Donc quelque chose par l'extérieur. Mais aussi, En particulier, quand ces déchets commencent à se fractionner, ils sont mangés, ils prennent ça pour leur alimentation normale. Et là, vous avez les estomacs qui se remplissent. Il y a eu des autopsies faites par les gens d'Algalita, c'est le laboratoire à Hawaï qui suit ça de près, où vous avez l'estomac d'une tortue ou l'estomac d'un oiseau qui est plein. Donc finalement, il n'y a plus de place pour la nourriture, donc il meurt de faim. Et le dernier problème, c'est que ces petits bouts de plastique, c'est des véritables éponges à polluants. Et donc vous avez une saturation en ce qu'on appelle par exemple les organochlorés, les PCB, les DDT, tous ces produits chimiques, encore une fois, de la vie quotidienne à terre. Et là, la conséquence, elle est extrêmement grave parce que c'est une contamination de l'ensemble de la chaîne alimentaire. Et ça remonte jusqu'à nous. On sait qu'il y a une forte contamination, par exemple, des poissons par les métaux lourds, les mercures, etc.
etc.
Les plastiques sont des très bons vecteurs pour ce genre de contamination.
Yannick, ça, très bien. Oui, mais en plus, il me semble qu'on trouve des plaques de ce type-là aussi maintenant en Atlantique. Et c'est surtout la surface qui m'a impressionné. Parce qu'on hésite entre la surface de la France et la surface de l'Europe pour la plaque placifique.
Oui, d'autant plus que comme c'est pas une plaque avec un début, une fin très clairement définie, c'est dur de mesurer. Mais oui, on est, comme vous le disiez, sur ces proportions, au moins la surface de la France, qui est déjà pas...
C'est monstrueux, oui.
Voir la surface entière de l'Europe, on voit bien que le Pacifique est immense, hein, donc on est sur des échelles qui, ici, sont hors proportion. On sait qu'il y a des fortes concentrations de déchets qui ont été trouvées récemment dans le sud de l'océan Indien. On imagine qu'avec des phénomènes de vortex similaires, on pourra trouver, et on va sûrement le trouver dans l'Atlantique aussi. Il n'y a pas de raison, il y a les mêmes phénomènes de rejet de plastique à l'eau, il y a les mêmes phénomènes de courant. On trouve après dans d'autres zones, par exemple dans la Manche, mais qui est liée plus cette fois à la proximité des côtes, aussi des fortes, fortes concentrations de pollution plastique et autres.
Merci à vous François Chartier, je rappelle que vous êtes donc chargé des campagnes océans à Greenpeace France, et puis Yannick Jelin, on va aller dans un coin, dans un territoire que vous adorez, c'est le Marais Poitevin. J'avais fait une émission il y a à peu près 4-5 semaines de mémoire, et j'avais gardé quelques éléments en sachant que vous alliez venir, parce que c'est pour vous, c'est à la fois un terrain de jeu pour Gargantua, c'est un lieu de production incroyable de biodiversité, puis c'est aussi un lieu de rêve où on peut planter des histoires et qui remontent comme ça, tels des feux follets. Donc on va aller dans ce Marais Poitevin avec Richard Joseph et Julien Leguet.
Alors on a une mosaïque de paysages qui est assez hallucinante. Hein. Sur 50 km, on peut avoir une grande diversité de paysages et de biotopes. Mais ce qu'il faut quand même avoir à l'esprit, c'est que l'ensemble de ce territoire a été complètement modelé par l'homme.
Oui.
Là, actuellement, on est sur une conche. On est, j'irais, en bordure du Marais Mouillé, hein, puisqu'on voit les maisons qui sont sur le bord de ce Marais Poitevin.
Oui.
Tous les arbres qui sont ici ont été plantés de main d'homme, puisque ce Marais Mouillé est un marais inondable. Donc, pour le rendre accessible aux agriculteurs, pour y pratiquer des activités de chasse, de pêche, de cueillette au sens large du terme, on a créé ce réseau hydraulique, et pour fixer les berges de tout ce réseau hydraulique, on a planté des arbres. Alors l'arbre phare ici, c'est le frêne têtard.
Voilà.
Donc ces frênes fixent les berges, mais il a un autre avantage, c'est que lorsqu'on lui coupe la tête, il devient têtard, et
oui.
Ses branches, on va les récupérer pour faire du bois de chauffage. Donc autrefois, on coupait ça tous les 5 à 7 ans, maintenant c'est plutôt tous les 12 à 15 ans. Et autre fonction de cet arbre, on pouvait récolter les jeunes pousses pour les donner à manger aux animaux en période de pénurie. Lorsqu'on regarde la hauteur à laquelle la tête a été coupée, on en a qui sont coupés à 1 mètre. Ce sont des secteurs où on utilisait le frêne uniquement comme source de bois de chauffage. Et lorsqu'on a des frênes qui sont à 2 mètres de hauteur, eh bien, on regarde à l'intérieur de la parcelle, on va retrouver des bovins, des prairies. Puisque si les frênes avaient été coupés plus bas, ils seraient pelés régulièrement et ils ne pourraient pas survivre.
Alors là, on passe dans vraiment un tunnel de verdure. On a baissé gentiment la tête. Voilà. Avec quand même la première chose qui est importante, Julien Leguet, c'est de se laisser complètement envahir déjà par le silence, par le travail que vous faites là, c'est-à-dire que vous avez, alors, on va dire, un grand bâton en bois, ça s'appelle une pigouille.
Exactement, ouais, c'est la pigouille. C'est l'ustensile traditionnel de propulsion pour mener les bateaux dans le marais.
C'est pour ça que vous avez un bras gauche extrêmement développé.
C'est ça, exactement. Oui. Surtout une épaule.
Oui.
C'est un gros intérêt, c'est qu'on pouvait charger comme ça des bateaux relativement lourds. Il faut se rendre compte qu'autrefois, on emmenait aussi les vaches sur les bateaux.
Ouais.
Sur certains secteurs, on extrayait l'argile, ce qu'on appelle le brie, et on ramenait aussi cette argile jusqu'aux tuileries en bateau. Donc, il fallait de la force, il fallait pouvoir emmener toute cette charge.
Et
la pigouille est très, très intéressante pour ça. Quand on y regarde de plus près, quand on s'intéresse un peu aux zones humides, on s'aperçoit que ce mode de propulsion, il n'est pas maraîchino-maraîchinesque.
Oui.
On retrouve partout à travers le monde. J'ai même tendance à penser que c'est un mode traditionnel, ancestral de propulsion à travers le monde.
Oui, la pigouille qui relie les femmes et les hommes presque du monde entier, là en tout cas où vous avez des zones humides. Tiens, une petite fusée bleue, là.
Oui, on est sur le Grand Canal, là, et c'est le territoire du Martin Pêcheur.
Ce qui est extraordinaire avec cette frame d'état, c'est que ça prend des formes incroyables. C'est-à-dire que l'imaginaire s'empare de ça. C'est un territoire pour trolls, pour lutins, pour...
Oui, hein, farfadet, on
farfadet.
Dit.
Farfadet. Farfadet. Pas obligé d'être aussi nordique que moi, là, voilà, c'est ça.
Et elles prennent toutes leurs dimensions quand on a le bonheur de partir au petit matin ou à la tombée de la nuit. Où, là, toutes ces formes, ce sont des êtres, ouais, des marais qui nous observent. C'est... Elles sont le support de nombreuses légendes.
On hérite de quoi quand on est un enfant du marais ici?
Quand on grandit ici, si on a des parents qui vous donnent la liberté de le vivre à fond, ce marais, qui ne sont pas dans le reste à la maison, ne sors surtout pas, ne va surtout pas découvrir ce qu'il y a autour de toi, bah c'est un extraordinaire terrain de découverte, terrain de jeu. C'est l'apprentissage de la liberté, c'est l'apprentissage de la richesse, de la nature, hein, c'est évident. Je me souviendrai toujours de ces après-midi d'été où on part avec le frangin, on a 10 ans et 8 ans, puis les parents disent « mais partez donc, vous connaissez mieux le marais que nous, alors allez-y mmh. ». Et puis on prend le bateau, et puis c'est les grenouilles, c'est les cabanes dans le marais, c'est un terrain d'épanouissement extraordinaire. C'est pour ça qu'on se bat pour ces territoires, c'est pour ça qu'on aimerait que ce marais reste ce qu'il est.
Petite respiration quand même dans ce marais poids de vin après être parti là sur notre plaque de déchets. Mais c'est ça qui est intéressant aussi, Yannick, c'est tous ces sujets que vous avez choisis. Vous héritez de quoi, vous, de ce marais? Parce que c'est un lieu d'inspiration, c'est un lieu qui est aussi extrêmement fragile. Il y a le problème de la gestion de l'eau, et avec différents usagers, c'est quand même compliqué. C'est un parc aujourd'hui interrégional du marais Poitevin, mais qui a quand même perdu son label aussi de parc naturel. Donc là, nous étions sur la plate que vous connaissez, on avançait donc avec les pigouilles. Mais qu'est-ce qui vous évoque, vous, ce marais, Yannick?
Schizophrénie totale, c'est-à-dire d'un côté, mais il est à l'image de ce qui, au début, quand on a fait le marais, on l'a asséché, c'est les Hollandais qui ont asséché le marais.
Comme le dodo, comme ils ont asséché le dodo et le marais.
Le gladbaud, le Hollandais, il était terrible à faire, oui, j'aime pas les Hollandais.
Et donc, les Hollandais qui assèchent ce marais, cette zone desséchée, qui maintenant est le territoire des céréaliers, qui sont des très gros céréaliers, qui sont, en plus, ils touchent encore plus de subventions quand ils irriguent le marais, quand ils ont fait fortune, ils sont très peu nombreux, très influents. Ils ont aussi des terres qu'ils mettent en construction, par exemple, à la Faute-sur-Mer ou à l'Aiguillon. Ce sont les mêmes. Donc, d'un côté, il y a les intérêts de ces gens-là, peu nombreux, mais très, 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 très influents. Et de l'autre côté, un marais mouillé, qui est une espèce d'erreur de la nature, puisque c'était une terre gâtée, une terre qui avait été confiée au néant, et où il y a tout un tas de gens qui sont arrivés de nulle part pour se l'approprier, construire 100 000 km de canaux comme ça. Mais il y avait à l'époque une nécessité, une urgence à l'habiller pour que les gens survivent là-dedans. Aujourd'hui, où est l'urgence? Les intérêts sont tellement en contradiction, et ce territoire de la rêverie, de la bedasserie et de l'oisiveté pourrait bien disparaître à tout jamais si on n'arrive pas à trouver des espaces de coopération. Et le problème, c'est que le marais, en plus, est un espace très individualiste. On n'est pas de gens aisés, les maraîchers.
Mais malgré tout, vous connaissez encore quelques faits, vous, dans le marais Poitevin. Quelques lutins. Enfin, y a quand même encore du monde que l'on peut voir à certaines heures.
ça dépend de la consommation qu'on fait.
Voilà.
Mais il y a des vraies belles personnalités. La vache maraîchine, par exemple, qui est encore protégée par Charles et Annie Chessac, là-bas, dans le fin fond du marais. Il y a des gens qui font des trucs formidables dans le marais. Mais il y a des îlots comme ça. Alors, est-ce que de ces îlots va renaître un monde, un marais, où il y aurait... Parce qu'il y a plein de choses à y faire dans ces terres qui sont des terres sous le niveau de la mer, des... Il y aurait des choses à faire, mais je ne sais pas si les collaborations possibles arriveront à se faire. pour qu'on continue à garder cet espace où on peut effectivement avoir des grandes visions la nuit, le jour et même ailleurs.
Et ode à cette vache maréchine, je vais arriver à le dire, qui est très légère et c'est pour ça qu'elle peut s'enfoncer tranquillement dans ces lieux.
Mais elle a donné les vaches de l'Aubrac.
Oui.
Elles sont parties de là, c'est les moines du Marais Poitevin qui ont emmené ces vaches là-bas. Elles se sont adaptées, elles ont les cornes qui ont poussé. Parce que la corne, quand elle vit après dans l'Aubrac, elle a la corne qui pousse. Ouais.
Bon,
la
vache. Chez Dite, ça vous va bien aussi, ça ?
Va bien, ah, ça.
Allez.
Si jamais tu cherches un refuge, une place où personne ne te juge, tu trouveras toujours chez moi un endroit qui ressemble à ça. Si un jour tu sens le besoin de parler à quelqu'un, de mettre des mots sur tes peurs, si tu en as gros sur le cœur, tu peux compter sur moi. Magique, docteur miracle, tout le cirque. Mais si tu pars à la dérive, je serai là quoi qu'il arrive. Ça ne s'en va des paroles en l'air, ni des promesses à la légère. Mais ma déclaration d'ami, peut-être un peu d'amour aussi.
Dernier sujet aussi que l'on va quand même aborder, mais très rapidement, Yannick Jelin, que vous aviez choisi, c'était l'invasion de nos merveilleux panneaux publicitaires.
Le grand des villes.
Voilà.
la ville libidineuse de par son envie de consommation ou de faire consommer.
Et alors, vous avez une association qui s'appelle Paysages de France avec à sa tête Pierre-Jean Delahousse. Pierre-Jean, ce que je veux dire tout de suite, c'est que le 8 janvier, on refera un sujet plus complet sur ce thème-là parce qu'on a eu aussi des questions d'auditeurs sur le thème des panneaux publicitaires. Mais il y a une actualité là qui est extrêmement importante pour vous. Quelle est-elle sur ces panneaux publicitaires, Pierre-Jean Delahousse?
Oui, bonjour. Cette actualité, effectivement, est très importante puisqu'on a vu le Grenelle 2, la loi du 12 juillet 2010 passée, et qui a aggravé la situation. J'expliquerai ça le 8 janvier si, effectivement, c'est possible.
Ah oui, ce sera possible.
Et pourquoi c'est un moment important? Tout simplement parce qu'on en est au décret d'application qui est en train de se discuter, qui va se discuter encore mardi prochain. Et on attend évidemment que la ministre qui avait engagé ce processus intervienne de façon à essayer de sauver le processus qu'elle avait elle-même engagé. Parce que dans le cadre du décret, on peut essayer de sauver un peu les meubles.
Bien, merci à vous. Donc c'était notre petite partie d'actualité. Merci Pierre-Jean Delahousse d'avoir fait court. Donc 8 janvier, on y reviendra avec les questions des auditeurs. On en a déjà emmagasiné un certain nombre. D'ailleurs, 01 56 40 40 35. N'hésitez pas, hein, c'est le numéro donc, de CO2 Mon Amour. 01 56 40 40 35. Qu'est-ce que l'on peut vous souhaiter, cher Yannick Jelin, en 18 secondes?
D'avoir le dodo qui se réveille en moi. En se réveillant, nous... Non, mais... juste de prendre, de continuer à prendre un plaisir comme il y a fait.
Et puis, du 11 janvier au 13 février, on en reparlera sur France Inter, 18h30 au Théâtre du Rond-Point, Le Dodo de Yannick Jeunin, à La Roche-sur-Yon, un petit peu partout. On a mis les dates aussi sur le site de CO2 Mon Amour. Merci d'avoir été le rédacteur en chef de cette belle émission.
Merci de cette invitation, voilà. Abétou.
Assisté de Marion Lelay, de Jean-Christophe Pinaza et Valérie Ayestaray qui réalisait l'émission.